Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Anouar Gbibesh, vice-président du Conseil français du culte musulman, président du RMF. Bonsoir.
Bonsoir.
Anouar Gbibesh, merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation au lendemain du congrès du CFCM qui s'est déroulé hier à l'Institut du Monde Arabe, un rassemblement inédit organisé le jour du 113e anniversaire de la loi de 1905 avec un discours de clôture du ministre de l'Intérieur qui a eu un week-end très chargé, il faut le dire. Alors, pour quelles raisons le CFCM a-t-il décidé d'organiser ce congrès ?
Effectivement, ça fait plusieurs mois que nous souhaitions organiser une manifestation réunissant le CFCM avec l'ensemble des organisations musulmanes, notamment les fédérations nationales et les grandes mosquées, pour plusieurs raisons. La première, c'est d'envoyer un message d'unité et de solidarité entre toutes les composantes du CFCM, autour du CFCM. Ça, c'était le premier point, parce qu'on nous reproche, on reproche aux musulmans d'être divisés. Donc c'était le premier objectif, c'est d'envoyer un message unitaire. Le deuxième objectif, c'était autour de notre attachement à la laïcité, puisque dans l'actualité, on parle de la modification de la loi de 1905. Donc nous voulons, et de l'organisation du culte musulman, sa restructuration, donc on voulait réaffirmer notre attachement à la laïcité, toute la laïcité, mais rien que la laïcité. C'est-à-dire que par rapport à ça, nous souhaitions être traités de la même manière que les autres cultes, et qu'il n'y ait pas d'ingérence de part ou d'autre sur la manière dont le culte musulman devait se structurer. Et le troisième point, c'est réaffirmer notre attachement à la France, notre pays, à la nation, aux valeurs qui unissent l'ensemble des Français autour d'une république laïque et solidaire. Et donc la dimension citoyenne des musulmans de France devait être réaffirmée et mise en avant, d'où le triptyque sous lequel nous avons placé ce congrès, qui est unité, indépendance, citoyenneté.
Avec un congrès qui a été clôturé par la Marseillaise.
Tout à fait. Nous souhaitions en fait le clôturer par deux choses. La prise de parole du ministre de l'Intérieur, M. Christophe Castaner. Par les temps qui courent, on tenait absolument à ce qu'il vienne s'exprimer devant les responsables du CFCM, les représentants et les responsables des différentes fédérations musulmanes et grandes mosquées, et l'ensemble des composantes de l'islam de France, comme on dit, nous présenter sa conception de la laïcité, nous présenter ses projets concernant l'évolution de la loi de 1905, et également sa vision ou la vision du gouvernement sur la restructuration du culte musulman en France et quelle posture il a adoptée vis-à-vis de cette restructuration. Et nous avons tenu effectivement à terminer la rencontre par un moment solennel autour de la Marseillaise pour réaffirmer notre engagement et notre amour pour notre patrie, la France.
Un mot du ministre de l'Intérieur, votre interlocuteur depuis l'élection d'Emmanuel Macron, c'était le maire de Lyon. On sait qu'il est parti de manière un peu spectaculaire. Les dossiers ont été repris de la même manière par Christophe Castaner.
Je pense que globalement, chaque ministre de l'Intérieur a sa propre spécificité et sa propre sensibilité. Mais il y a globalement quand même une continuité de l'État. Donc par exemple, le ministre de l'Intérieur sortant, M. Gérard Collomb, avait lancé au mois de juin ce qu'on a appelé les assises territoriales de l'islam de France. M. Castaner reprend les conclusions de ces assises et souhaite s'appuyer dessus pour dire quelle est la vision du gouvernement et quelle est la position du gouvernement concernant l'évolution de la structuration et de l'organisation du culte musulman en France. D'ailleurs, dans son discours d'hier, il en a rappelé trois ou quatre remontées majeures des différentes rencontres qui ont eu lieu dans les différents départements. Donc, quelques, je dirais, sensibilités parfois différentes, mais une continuité de l'État concernant le traitement du dossier des cultes.
Alors vous avez participé en tant que représentant du CFCM à ces rencontres qui ont été organisées dans toute la France. Le CFCM a fait entendre son point de vue, mais il n'y avait pas que le CFCM dans ces rencontres. Qu'est-ce que vous avez appris en écoutant les autres Français de confession musulmane qui se sont exprimés sur la question de l'islam de France?
Déjà, à titre personnel, j'ai participé à 4 ou 5 rencontres dans des préfectures, dans des départements, dans le cadre de ces assises territoriales. Nous avons eu au sein du CFCM les remontées des différents présidents de CRCM qui nous ont fait un compte-rendu de leur participation aux différentes assises territoriales concernant l'islam de France. C'est toujours très intéressant de redonner la parole aux fidèles de base, aux différents acteurs locaux autour du culte musulman. C'est une très bonne initiative. C'est une très bonne initiative, mais au-delà de cet aspect positif, j'avoue qu'il n'y a pas eu de révolution ou de scoop concernant les propositions qui ont émané. On reparle toujours des mêmes choses, à savoir comment arriver à former les imams, comment les rémunérer, comment arriver à soutenir les mosquées dans leur fonctionnement, dans leur construction, comment répondre aux attentes des musulmans de France concernant l'accès à du halal certifié, à organiser le pèlerinage d'une manière satisfaisante. Ce sont des dossiers récurrents sur lesquels chacun s'est prononcé. Il y avait une connotation un peu particulière concernant le financement du culte musulman en France. Et donc là-dessus, le CFCM a bien sûr mis en avant l'association cultuelle qu'il a mis en place, qui s'appelle la FSCM, l'Association de Financement et de Soutien au Culte Musulman en France. Nous en avons parlé, nous avons exposé ses objectifs. Je pense que les pouvoirs publics avaient également en tête une alternative dont ils ont parlé, qui est de mettre en place un fonds social de solidarité entre les musulmans. Ils ont soumis cette idée. Bon, les musulmans ou les fidèles qui ont participé à ces rencontres n'avaient pas forcément bien réfléchi et eu le temps de concevoir cette idée. Donc ils n'étaient pas forcément contre, mais ils n'étaient pas non plus pour par rapport à une position de principe. Mais globalement, tout ce qui peut aider le culte musulman au niveau sur le plan du financement est bien sûr le bienvenu.
Sur le principe, Anouar Gbibesh, c'est de la démocratie participative. Les fidèles musulmans ont eu le sentiment d'être entendus?
Alors le sentiment, pour vous être totalement transparent avec vous et avec vos auditeurs et auditrices, le sentiment était mitigé. À la fois, ils disaient que c'était positif qu'on leur redonne la parole, qu'on les entende, qu'on les écoute. Ça, c'est l'aspect positif. Et puis, on a eu quelques remarques de certains qui disaient, finalement, à quoi bon, parce que tout est déjà joué à Paris et qu'on attend la fin de ces assises pour annoncer la manière dont les pouvoirs publics concevaient l'organisation et la structuration des musulmans de France. Donc, on avait quand même un peu un certain scepticisme à cette occasion. Nous, en tout cas, nous avons au sein du CFCM dit qu'on participait à ces assises d'une manière constructive et d'une manière dynamique. Donc c'est ce que nous avons fait. Nous avons été à l'ensemble des rencontres faites dans les différents départements et nous avons également essayé nous-mêmes d'en tirer les conclusions et les enseignements. Et nous avons présenté notre vision de ces assises lors d'un colloque que nous avons organisé le 21 septembre dernier au Sénat. Et donc c'était une expérience à la fois positive pour les fidèles de base, les acteurs locaux, mais également pour le CFCM, puisque ça lui a permis d'être à l'écoute de l'ensemble des attentes des musulmans de France qui se sont exprimés. D'ailleurs, il y a un point important sur lequel le ministre a insisté hier dans son discours, c'est que ces remontées-là n'ont aucune valeur de sondage scientifique, puisqu'il y a un certain nombre de profils qui ont été invités, ils se sont exprimés, mais il y a à peu près 3000 participants quand on réunit l'ensemble des acteurs ou des participants aux différentes assises, à peu près 3000 participants. Mais globalement, ce n'est pas forcément un échantillon représentatif de la communauté musulmane de France.
Alors, dans son discours, le président du CFCM, Ahmed Ogra, a rappelé que votre institution n'a que 15 ans, ce qui est finalement peu. Il a parlé d'un CFCM rénové. Le CFCM a connu des crises de croissance. Est-ce qu'il se porte mieux aujourd'hui? Et puis, est-ce que vous vous sentez respecté par les pouvoirs publics?
Alors, est-ce qu'il se porte mieux aujourd'hui? Je pense que là aussi, le verdict ou l'analyse peut être nuancée. Je pense qu'il y a une prise de conscience au sein du CFCM et au sein de l'ensemble des composantes du CFCM, à savoir les fédérations et les grandes mosquées, que nous sommes à un tournant pour l'organisation du culte musulman et qu'il faut, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises ici même, concevoir le CFCM 2.0, voire le CFCM 3.0. avec l'ouverture aux jeunes, avec un certain nombre d'évolutions, de réformes qu'il faut mettre en place. Donc il y a une prise de conscience qu'il faut franchir un cap, qu'il faut passer à autre chose. Ça s'est traduit d'ailleurs dans les interventions des différents présidents de fédérations ou de grandes mosquées qui se sont exprimés hier. Maintenant, en termes de moyens, nous en sommes encore à la construction pour que le CFCM se donne des moyens humains et financiers pour relever tous les défis auxquels il doit faire face. Donc ceci, ça reste à concrétiser. Maintenant, au niveau de la prise de conscience, on est plus fort. Au niveau des moyens, on ne l'est pas encore, puisqu'il faut que l'association culturelle que nous avons mise en place commence à produire ses effets et commence à permettre la levée de fonds pour que le CFCM puisse se donner les moyens de ses ambitions.
Ahmed Ogra, justement, a dénoncé le budget dérisoire du CFCM dans son discours. Vous avez donc pris des initiatives avec cette association de financement. Concrètement, où vous en êtes? Qui va financer cette association?
Bon, déjà, le fait de dénoncer les moyens ridicules, pour être totalement transparent avec vous, les moyens financiers dont dispose le CFCM aujourd'hui, j'ai été le premier à le dire publiquement. Puisqu'à l'occasion de ma première audition en tant que président du CFCM il y a deux ans par l'Institut Montaigne, à l'occasion de son premier rapport, j'avais indiqué clairement que le budget du CFCM n'excédait pas 30 000 euros par an et qu'on avait du mal à avoir même un permanent puisqu'il est disponible à temps partiel. Donc j'étais le premier à le dénoncer. Et globalement, il y a eu une prise de conscience que sur le plan du financement, là aussi, il faut qu'on franchisse un cap, d'où la mise en place de cette association culturelle. Les sources de financement, elles sont aujourd'hui clairement établies. C'est mettre en place une redevance sur le halal, mettre en place une redevance sur le pèlerinage. Et on parle de redevance, pas de taxe, parce que dès qu'on parle de taxe, ça veut dire que c'est les pouvoirs publics, c'est le gouvernement qui le met en place. Il est hors de question.
On n'aime pas beaucoup les taxes en ce moment.
Oui, puis c'est pas vraiment d'actualité. Mais on voulait mettre en place une redevance sur le halal et sur le pèlerinage, mais quelque chose de vraiment indolore pour les fidèles. Parce que globalement, sur le halal, on avait parlé de quelques centimes par kilo de viande halal vendue. Et on a même parlé d'une contribution forfaitaire des acteurs du halal sans rentrer dans le calcul de centimes par kilo, parce que là on rentre dans des calculs et un dispositif compliqué. On avait parlé d'une contribution forfaitaire des acteurs du halal et l'idée a fait son chemin dans le bon sens. On a parlé du pèlerinage à la Mecque avec peut-être 10-20 euros par pèlerin. Les acteurs du pèlerinage nous ont dit qu'ils pouvaient aller encore plus loin, jusqu'à 100 euros par pèlerin. Et puisqu'il y a 30 000 pèlerins qui partent tous les ans, si on part sur 100 euros par pèlerin, ça ferait déjà dans l'ordre de 3 millions d'euros par an. Et donc, par contre, les acteurs du pèlerinage nous disaient qu'on est prêt à aller dans ce sens, mais dans une démarche gagnant-gagnant. C'est-à-dire que le CFCM, avec l'association culturelle, apporte des services aux acteurs du halal, notamment dans le dialogue avec les autorités saoudiennes.
Il pourrait y avoir une sorte de certificat du CFCM. Vous pourriez certifier aussi la qualité des produits.
Oui, tout à fait. On pourrait passer par une définition d'un cahier des charges, que ce soit pour le halal, c'est déjà fait, puisqu'il y a un référentiel religieux avec une charte du halal qui a été défini avec l'ensemble des acteurs du halal. Donc ça existe. On pourrait établir une charte avec un cahier des charges concernant les opérateurs du pèlerinage pour assurer les meilleures conditions de l'accomplissement de ce cinquième pilier de l'islam pour les fidèles. Et en plus de ce label qui serait une garantie pour les fidèles, on voudrait offrir en retour un service pour les opérateurs pour leur faciliter l'obtention des visas pour les fidèles qui veulent accomplir le pèlerinage. Et donc ceci passe par un dialogue fructueux avec les autorités saoudiennes et notamment le consulat d'Arabie Saoudite à Paris, et le CFCM avec cette association culturelle est tout à fait prêt à le faire.
Alors cette idée de redevance Anouar Bibesh, elle peut être concrétisée uniquement avec les opérateurs privés ou bien vous avez quand même besoin aussi du soutien de l'État?
Non, l'État, il peut jouer le rôle d'un facilitateur ou d'un accompagnateur pour la mise en place de ces redevances. Mais la mise en place de la redevance elle-même, par définition, elle doit se passer entre l'association cultuelle et les acteurs du halal et du pèlerinage dans un dialogue franc et direct que nous avons commencé depuis plusieurs mois. Et donc maintenant, avec la mise en place de l'association cultuelle, nous allons rentrer dans un dialogue encore plus concret pour voir les modalités de mise en œuvre de cette redevance sur le halal et sur le pèlerinage. Et j'insiste, cette redevance devrait être transparente pour le fidèle, puisqu'elle sera prélevée sur le coût global qui est déjà existant. Donc elle n'apporterait pas un surcoût sur le coût du pèlerinage ou le coût du halal, mais bien au contraire, elle contribuerait à la rationalisation et à l'optimisation des coûts payés par les fidèles.
Et le fidèle qui achèterait son billet d'avion, son voyage, saurait exactement le montant de sa contribution?
Oui, tout à fait, nous serons totalement transparents, de la même manière qu'aujourd'hui, quand on achète des produits bio ou faisant partie de l'économie solidaire, comme on dit, on affiche exactement quel est le nombre de centimes ou quel est l'argent ou le pourcentage perçu ou prélevé sur le coût du produit pour des œuvres correspondant au label affiché.
Donc vous êtes en train de nous dire que les discussions sont bien avancées, mais j'imagine qu'il faut que vous ayez un certain nombre d'opérateurs à la fois dans le halal et dans le pèlerinage. Vous ne pouvez pas vous contenter d'un ou deux opérateurs à chaque fois.
Il se trouve que le travail a déjà commencé, comme j'ai dit, depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc les acteurs du halal sont tous représentés dans la commission halal du CFCM. Donc on les voit régulièrement. Et d'ailleurs, il y a une réunion pas plus tard que ce mercredi avec l'ensemble des acteurs du halal dans le cadre de la commission abattage rituel du CFCM. Donc ils sont tous déjà autour de la table et la discussion a déjà commencé avec eux. Et les acteurs du pèlerinage ont été contactés déjà quand j'étais président du CFCM. Il y a 2 ans, nous avons en fait contacté les responsables de la coordination. En fait, les 45 agences de voyage sont regroupées dans une coordination. Et nous avons donc reçu une délégation du bureau de cette coordination. Et quand on parle avec le bureau, c'est comme si on parlait avec l'ensemble des acteurs du pèlerinage qui sont au nombre de 45 agences de voyage.
On peut imaginer, Anne-Marc Bibesh, un accord avant le prochain pèlerinage à la Mecque. J'imagine quand même que vous avez un calendrier en tête.
Oui, tout à fait. Nous souhaitons aller très vite. Donc nous souhaitons effectivement mettre en place cette redevance sur le halal et sur le pèlerinage dans les quelques semaines et dans les quelques mois à venir. Donc j'espère qu'avant même le prochain pèlerinage à la Mecque, cette redevance soit mise en place.
Donc vous êtes en train de nous dire qu'avant le prochain Ramadan, vous pensez parvenir à un accord? Vous espérez?
On espère. Bon, le pèlerinage arrivera un petit peu plus tard que le Ramadan, mais effectivement, il faut que d'ici le mois d'avril-mai, on ait trouvé un accord pour qu'il puisse se mettre en place pour le prochain pèlerinage à la Mecque qui aura lieu au mois d'août, à peu près.
L'idée d'une taxe, ça a été proposé par l'Institut Montaigne. C'est pour l'instant quelque chose qui n'arrivera pas?
Non, enfin, c'est ce que j'ai dit hier lors du Congrès des musulmans de France, c'est qu'il y a effectivement des initiatives à côté de celles qui sont menées par le CFCM, qui ignorent d'ailleurs les initiatives prises par le CFCM. Il se trouve que ce projet-là alternatif à vocation, où les porteurs de ce projet disent qu'ils poursuivent les mêmes objectifs que l'association culturelle créée par le CFCM, en s'adressant aux mêmes acteurs, en mettant en place les mêmes mécanismes, Donc c'est pratiquement une redondance des deux démarches. Mais en tout cas, nous, on est profondément convaincus que les fidèles de base, que les musulmans de France, que les acteurs du halal et du pèlerinage préféreront travailler avec l'association culturelle mise en place par le CFCM et les fédérations musulmanes que plutôt qu'avec une institution ou une association culturelle mise en place par des financiers ou des banquiers, même s'ils viennent de chez Rothschild, quoi.
L'invité de Pluriel est Anouar Bibesh, vice-président du Conseil français du culte musulman, président du RMF. On se retrouve dans quelques instants.
Animé par Loïc Barrière.
Retour sur le plateau de Pluriel. Nous sommes toujours en compagnie d'Anouar Bibesh, vice-président du Conseil français du culte musulman, président du RMF, le Rassemblement des musulmans de France. Alors, Christophe Castaner a indiqué qu'il souhaitait construire une réflexion avec le CFCM qui pourrait prendre la forme d'une traduction législative autour de la loi de 1905. Qu'est-ce que cela veut dire exactement ?
Il y a eu effectivement depuis quelques semaines des fuites dans la presse, notamment le journal L'Opinion, d'un projet du gouvernement qui voudrait apporter quelques évolutions à la loi de 1905, pas dans son article 1er et l'article 2 qui pose les fondements de la laïcité en France, mais plutôt l'article 19, 20, enfin, qui règle un certain nombre de dispositions pratiques concernant les avantages ou les obligations liées aux associations culturelles. Donc nous en avons parlé lorsqu'on a été reçu par le ministre de l'Intérieur, M. Christophe Castaner, le 22 novembre dernier, dans le cadre des consultations qu'il a lancées avec l'ensemble des représentants des cultes. Il nous a confirmé que c'était des hypothèses de travail, c'était un document de réflexion, mais qu'il n'y avait en aucun cas un projet de loi qui était déjà sur la table. Donc nous avons pris acte de cette communication et cet éclairage apporté par le ministre de l'Intérieur. Par contre, ce que nous a dit le ministre, c'est qu'il est en train de rencontrer l'ensemble des responsables de culte. Il a rencontré le 17 novembre les représentants de culte israélites, le 22 novembre les représentants de culte musulmans, le 27 novembre les représentants des protestants et le 12 décembre, je crois, les représentants du culte catholique. Et à l'issue de ces consultations, il devrait nous adresser par courrier des propositions ou des pistes qui peuvent être reprises par le projet de loi du gouvernement. Et c'est ce moment-là, une fois qu'on aura été saisi officiellement de propositions concrètes, que le CFCM, au titre du culte musulman, réagira. Alors, maintenant, aujourd'hui, il y a quelques pistes, effectivement, qui circulent. Voilà, on pourra rentrer dans le détail si vous le souhaitez.
Voilà, j'ai lu que des associations cultuelles sont aujourd'hui sous le régime de la loi de 1901, qui est donc la loi sur les associations, et elles passeraient sous le statut de la loi de 1905. D'un point de vue juridique, qu'est-ce que ça signifierait ?
Non, ce qui a été constaté, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, le culte musulman est géré, ou les mosquées, les lieux de prière sont gérés par des associations loi 1901, dans leur grande majorité, à quelques exceptions près. Bon, ça s'est fait à partir des années 80, lorsque il y a eu un projet de loi qui a été proposé par le gouvernement sous la présidence de M. François Mitterrand en 81, je crois, où il ouvrait la possibilité à des associations d'être présidées par des ressortissants étrangers qui sont en séjour régulier en France. Donc, je dirais par facilité et par méconnaissance peut-être des associations culturelles, l'ensemble des associations gestionnaires de lieux de culte côté musulman ont pris la forme d'une association loi 1901, c'est-à-dire une association culturelle. Maintenant, avec ce statut-là, ces associations ne bénéficient pas d'un certain nombre d'avantages qui peuvent être, offerts par le statut d'association culturelle, tels que le fait de bénéficier de baux emphytéotiques, ils sont exclusivement réservés à des associations loi 1905, le fait de bénéficier de prêts et garanties, le fait également de pouvoir défiscaliser un certain nombre de dons. Donc tout ça, ce sont des avantages qui sont offerts aux associations cultuelles. Donc nous devons faire un travail de pédagogie pour les responsables de lieux de culte, pour les inciter à passer en loi 1905.
Donc ça va dans le bon sens, selon vous?
Ça va dans le bon sens. Par contre, on n'a aucun moyen, que ce soit le CFCM ou que ce soit les pouvoirs publics, d'obliger les associations gestionnaires de lieux de culte à passer en loi 1905. Alors après, il y a d'autres contraintes qu'apporte le fait d'être en association loi 1905. C'est le fait de publier les comptes financiers de l'association dès le premier euro qui est dépensé. Le fait, de devoir publier les comptes d'une manière générale et également avoir un commissaire aux comptes ou qui examine les comptes de l'association. Donc ce sont des contraintes qui sont aujourd'hui déjà assumées et gérées par les associations culturelles des autres cultes. Il faut savoir que le culte israélite ou le culte protestant sont exclusivement gérés par des associations loi 1905. Donc il y a des facilités, des avantages, mais il y a également un certain nombre de contraintes. Maintenant, comme il n'y a aucune obligation qui peut être opposée aux responsables de ces associations, le gouvernement pense à une autre alternative, c'est de considérer que les associations culturelles, donc loi 1901, qui gèrent les lieux de culte, seraient traitées, entre guillemets, comme des associations culturelles, c'est-à-dire qu'elles auraient les mêmes obligations que l'association culturelle, sans en avoir les avantages. Et donc, du coup, les contraintes de publier les comptes, de pouvoir effectivement, également bénéficier d'un certain nombre d'avantages, seraient réservées aux associations culturelles. Par contre, les obligations concernant les associations culturelles seraient également opposables aux associations culturelles, ce qui pourrait amener et inciter les responsables du lieu de culte à passer plutôt en loi 1905.
Alors, le président du CFCM hier a annoncé qu'une fois les dossiers financiers maîtrisés, la formation des imams serait votre priorité. Est-ce qu'on peut faire le point sur la formation des imams? Il y a beaucoup de fantasmes aussi dans la classe politique sur ce que font les imams en France. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette formation soit mieux assurée?
La formation des imams est quelque chose effectivement d'important, puisque les imams sont au contact direct au jour le jour avec l'ensemble des fidèles, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, qu'ils soient hommes ou femmes. Donc leur rôle est très très important. Malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons pas une cartographie précise du profil type des imams de France avec leur formation ou leur cursus de formation. Par contre, il peut y avoir déjà, par rapport à l'existant, une action de formation continue. Donc il peut être fait à travers des séminaires thématiques sur tel ou tel thème ou sur telle ou telle science religieuse. Donc cet effort de formation continue peut être fait au niveau des régions, voire au niveau des départements. C'est pour ça que nous avons préconisé dans la réforme qui est en train de se discuter de systématiser la mise en place de conseils des imams au niveau des régions et au niveau des départements. Après, ça c'est la question de la formation continue. Après, il y a la formation initiale, qui a deux volets là aussi, le volet formation civile et civique et le volet formation théologique. Sur la formation civile et civique, aujourd'hui, le gouvernement, avec l'ensemble des universités de France, a mis en place un diplôme universitaire qui permet justement d'offrir à ces imams et à ces cadres religieux une formation sur le plan civil et civique. Par contre, la formation théologique, elle est de la responsabilité des fédérations musulmanes. Et là-dessus, il y a à peu près 7 à 8 instituts de formation qui existent déjà en France. Il faut arriver à les accompagner, arriver à capitaliser sur les expériences des uns et des autres, arriver à définir avec eux un cursus commun, qui soit un noyau de base avec un certain nombre de modules qui doivent être suivis par les imams qu'ils sortent de tel ou tel institut. Donc l'offre de formation d'imams existe en France, il faut juste, entre guillemets, la valoriser, la développer et capitaliser sur les expériences, sachant que notre objectif, bien sûr, c'est d'offrir des formations d'imams franco-français en France.
Le RMF que vous présidez offre des formations à des imams?
Aujourd'hui, nous sommes plutôt dans la formation continue. Donc il y a des séminaires d'imams qui sont organisés dans les différentes régions ou départements de France aux imams. D'ailleurs, ces sessions de formation sont ouvertes aux imams du RMF, mais même au-delà. Maintenant, sur la formation initiale donc, et à la formation théologique, nous sommes en train de préparer l'ouverture d'un centre de formation des imams au niveau national en région parisienne, à Clichy, là où se trouve le nouveau siège du RMF. Et il y aura des antennes régionales de ce centre de formation dans les quatre coins de la France. Nous aurons à communiquer là-dessus bientôt, dans les quelques semaines à venir, d'une manière officielle, sachant que la formation pourra commencer dès la rentrée 2019.
Alors, tout à l'heure, on a évoqué les initiatives parallèles à celles du CFCM. Hakim El Karoui a fait un certain nombre de propositions. Il a été critiqué, même s'il n'a pas été nommé par le président du CFCM hier dans son discours à l'Institut du Monde Arabe. Le CFCM a parfois été critiqué pour son manque de représentativité. L'ancien président du CCIF, Marwan Mohamed, a lancé une consultation des musulmans de France. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative ?
L'initiative de Marwan Mohamed, en fait, a repris une idée qui était déjà sur la table au sein du CFCM avec son groupe de dialogue avec les jeunes. Nous avions effectivement projeté de faire une consultation large à travers un sondage auprès de l'ensemble des fidèles, l'ensemble des citoyens français de confession musulmane, notamment les plus jeunes à travers la France. Bon, il se trouve que Marwan Mohamed a devancé un peu cette idée en la mettant en œuvre. Maintenant, enfin, nous sommes très sceptiques sur l'aboutissement de cette démarche, dans la mesure où elle repose sur un homme. Or, on est dans un État ou dans une société qui est basée sur des démarches d'institution pour qu'elles assurent la continuité et le sérieux de la démarche. Donc le CFCM, lui, continue dans le chemin qu'il s'est tracé sans être perturbé par telle ou telle initiative. Ceux qui critiquent la représentativité ou la crédibilité du CFCM doivent savoir que l'ensemble des mosquées de France sont invitées à participer aux élections du CFCM. D'ailleurs, il y en aura, les prochaines sont planifiées pour mai-juin 2019. Donc elles sont ouvertes à toutes les mosquées, à toutes les bonnes volontés. Et ce n'est pas parce que le taux de participation à telle ou telle élection, même au niveau national, dans le monde politique, voit des taux de participation qui ne sont pas à 100% comme dans certains pays, que pour autant le résultat n'est pas considéré comme valable ou crédible.
Anouar Gbibesh, en cette période où les gilets jaunes critiquent la verticalité du pouvoir, les décisions qui viennent d'en haut, est-ce que le CFCM est prêt à accueillir dans ses instances des personnes qui n'appartiennent à aucune fédération musulmane ? Vous nous avez dit à l'instant que si on voulait participer au CFCM, il fallait se rapprocher d'une mosquée. Est-ce qu'une personnalité peut jouer un rôle, une personne qui n'a pas encore tout à fait de légitimité, mais qui s'intéresse à la question de la gestion du culte, est-ce que cette personne peut venir vous voir et espérer être intégrée dans vos instances ? Je pense notamment aux femmes.
Ce sont deux questions différentes. Déjà, le fait de s'ouvrir à des personnalités qui ne sont pas forcément dans telle ou telle mosquée ou dans telle ou telle fédération, ceci est rendu possible et sera rendu possible, mais c'est déjà prévu dans les statuts actuels. Il y a une possibilité d'avoir 10% de personnalités cooptées au niveau du conseil d'administration du CFCM et même 20% de personnalités cooptées au niveau des conseils d'administration des CRCM. Donc cette disposition permet d'intégrer dans les instances représentatives du culte musulman au niveau national et au niveau régional des personnalités qui auront une valeur ajoutée, qui soient des penseurs, des intellectuels, des membres actifs, je dirais, au niveau du culte musulman, sans pour autant appartenir à telle ou telle fédération ou être, je dirais, présenté par telle ou telle mosquée. Concernant la représentation des femmes, c'est une autre histoire. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit hier au Congrès des musulmans de France, les femmes représentent la moitié de l'humanité. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons que regretter qu'il y ait zéro femme à l'Assemblée générale, zéro femme au Conseil d'administration et zéro femme au bureau du CFCM.
La photo de famille à la fin du congrès du CFCM, il n'y avait pas de femme.
Oui, tout à fait. Donc cette situation est inacceptable et elle est impossible à soutenir, surtout que le culte musulman est régulièrement interpellé sur l'égalité homme-femme. Donc là-dessus, dans le cadre de la réforme qui est en cours de discussion, il y a des propositions concrètes qui sont sur la table d'une proposition de discrimination positive en assurant un certain quota dans les personnes présentées par les fédérations de l'ordre de 20%. Ça rejoint un peu la loi qui a été votée il y a quelques années, où on impose aux entreprises qui sont cotées au CAC 40 d'avoir au minimum 40% de femmes dans leur conseil d'administration. Eh bien, l'idée, c'est d'instaurer un quota de l'ordre de 20% pour les femmes, réservé aux femmes dans les conseils d'administration du CFCM et des CRCM. Je pense qu'il faut qu'il y ait des actions de discrimination positive pour y arriver.
Anouar Kbibesh, hier, Ahmed Ogra a déclaré que le culte musulman est vivant aussi en dehors des mosquées. Est-ce que cela veut dire que le CFCM peut accueillir des associations qui ne sont pas forcément liées à des mosquées? Il a parlé d'associations qui œuvrent, par exemple, pour le dialogue interreligieux.
Alors, il faut rappeler quand même que dans le CFCM, c'est le Conseil français du culte musulman. Donc, quand on parle de culte musulman, nous avons quand même réaffirmé que dans l'ADN du CFCM, il y a surtout des mosquées, des lieux de culte, avec des associations gestionnaires de lieux de culte. Donc c'est ça l'ADN du CFCM.
Le CFCM n'est pas l'équivalent du CRIF pour les musulmans.
Voilà, tout à fait. L'équivalent, ce serait plutôt le consistoire israélite pour le culte israélite concernant le CFCM. Ceci étant dit, dans le dialogue interreligieux, parmi les 5 objectifs majeurs qui sont tracés dans les statuts même du CFCM, il y a le fait de contribuer au développement du dialogue interreligieux au niveau national et au niveau régional et local. Et à ce titre, le CFCM et les CRCM collaborent avec beaucoup d'associations qui ne sont pas forcément des associations gestionnaires de lieux de culte, mais qui sont actives, que ce soit sur le domaine des jeunes ou actives sur le domaine du dialogue interreligieux. Nous avons, par exemple, dans l'espace ou l'instance de dialogue avec les jeunes, nous avons intégré la présidente de Coexister, qui est une association qui regroupe des jeunes de toutes confessions et de toutes convictions. Nous avons intégré les scouts musulmans de France, qui ne viennent pas forcément de lieux de culte. Et concernant le dialogue interreligieux, nous travaillons avec le forum islamo-chrétien, par exemple, qui regroupe des personnalités diverses et variées qui sont investies dans le dialogue interreligieux. Donc l'ouverture du CFCM au niveau des activités est tout à fait possible. Par contre, son organisation et son ADN, il est autour des mosquées, autour des lieux de culte, autour des salles des prières et autour des associations gestionnaires de ces lieux de culte.
Anouar Kbibesh, on a appris que Jean-Pierre Chevènement allait quitter la présidence de la Fondation pour l'Islam de France. Il l'a confirmé hier au micro de Radio Orient. Quel bilan dressez-vous des travaux de cette fondation qui est encore très jeune?
Alors, c'est une question très très intéressante. La Fondation de l'Islam de France a maintenant 2 ans d'existence, puisque le décret de sa création a été publié au journal officiel, je crois, le 5 ou le 6 décembre 2016, donc pratiquement 2 ans jour pour jour. Elle s'est dotée de moyens relativement importants, avec la contribution financière d'un certain nombre d'entreprises, telles que la SNCF, Aéroport de Paris et la Caisse des dépôts et autres. Il s'est doté de moyens humains importants, puisqu'il y a, je crois, 3 permanents et 1 directeur dans cette fondation.
Qui sont plus riches que le CFCM.
Oui, donc il faut le reconnaître. Ils ont mené un certain nombre d'actions, de soutien par exemple, même symbolique, puisque c'est de l'ordre de 500 euros par an pour la formation des imams au diplôme et pouvoir les inscrire et leur faciliter l'inscription au diplôme universitaire. Il y a l'ouverture d'un campus sur Internet, un campus numérique pour pouvoir faire connaître les sciences et la civilisation musulmane. Donc ce sont des choses qui sont positives. N'empêche que, nous l'avons dit au ministre de l'Intérieur, la mayonnaise n'a pas tellement pris entre cette fondation de l'Islam de France et l'ensemble des fidèles et l'ensemble des composants de la communauté musulmane de France. Il y a également la symbolique que nous n'avons cessé de souligner, la symbolique d'une fondation pour l'Islam de France présidée par un non-musulman, malgré toutes les qualités qu'on peut reconnaître à M. Jean-Pierre Chevènement, qui a été ministre de l'Intérieur, qui a été à l'origine et à la manœuvre pour la création du CFCM. Donc nous avons une très très bonne image et de très bons rapports avec M. Jean-Pierre Chevènement, qui était d'ailleurs invité et qui a pris la parole au Congrès des musulmans de France hier. Ce n'est pas une question de personnalité, mais c'est la symbolique, et lui-même il le reconnaît dans la lettre qu'il nous a adressée dernièrement pour nous annoncer qu'il ne se représentait pas pour un nouveau mandat. Il a reconnu lui-même qu'une telle fondation avait vocation à être présidée par une personnalité musulmane. D'ailleurs, le Conseil français du culte musulman a demandé au pouvoir public qu'il puisse nommer ou contribuer à la nomination du futur président de cette fondation. Nous attendons le retour du ministre de l'Intérieur.
Vous souhaitez pouvoir jouer un rôle dans la nomination du futur président ou de la future présidente de la fondation pour l'islam de France?
Tout à fait, puisque ceci rentre dans une cartographie globale de la gestion du culte musulman en France. La Fondation de l'Islam de France, appelée la FIF, a vocation à s'intéresser au volet culturel, qui est très très important.
Voilà. Vous avez des noms à nous suggérer?
Il y a l'association culturelle sur le plan culturel. Il y a également le CFCM qui a un rôle peut-être de représentation auprès des pouvoirs publics. Donc il peut y avoir une complémentarité entre ces trois institutions concernant le culte musulman. Bien sûr, les musulmans doivent se mettre d'accord autour de noms qui représentent les compétences requises pour présider telle ou telle institution, mais les musulmans de France et le CFCM en particulier sont tout à fait capables de s'entendre sur des noms qui peuvent faire consensus, et c'est ce que nous avons transmis comme message au ministre de l'Intérieur.
Merci Anouar Gbibesh. Je rappelle que vous êtes vice-président du Conseil français du culte musulman et président du RMF. Bonsoir.
Merci à vous. Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.